19h, 20h, Conversation chez Lapérouse avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique.
Comme j'aime entendre mon nom dit aussi suavement. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes chez Lapérouse pour conversation de cet endroit avec Jean-Luc Barré. Bonsoir Jean-Luc Barré, vous êtes écrivain, historien et éditeur. Vous avez créé la maison d'édition Bouquin, enfin, et repris la collection Bouquin aussi. Vous avez 66 ans, vous avez reçu cette année le prix Renaudot de l'essai pour l'énorme biographie de De Gaulle, Une vie, et le tome 1 s'intitule L'homme de personne, 1890-1944, c'est chez Grasset. Alors tout de suite, une question assez simple, où avez-vous trouvé ce titre, L'homme de personne? C'est le général qui l'a dit ça.
Il l'a dit en 1940, en août 40, quand les Anglais ont eu la curieuse idée de vouloir le faire connaître. Il n'était pas très connu, il faut dire, mais ils l'ont confié à ce qu'on appelait à l'époque un publiciste qui devait le faire connaître. Alors il a dit, mais les Anglais veulent me lancer comme une savonnette. Et donc il n'était pas très content. Donc il s'est un peu vengé en racontant qui il était, parce que c'est ce qu'on attendait de lui, qu'il se présente aux Anglais. Il a dit, au lieu de dire je suis un général, je suis né à Lille, etc., il a dit je suis l'homme de personne, l'air de dire écoutez, je ne vous appartiens pas. Ouais. C'était ça d'emblée, quoi. Au fond, je n'appartiens qu'à la France, à Dieu et à la France.
C'est complètement fou comme aventure. Quand on lit votre biographie, c'est... Alors, combien de pages? 900 pages? 1000 pages?
Mais ça se lit comme
Et c'est
comme
vrai que c'est incroyable. C'est un thriller, c'est un roman d'aventure.
Merci.
Ce type qui décide... qui d'abord n'arrive à convaincre personne dans la hiérarchie militaire de qu'est-ce que la guerre va être perdue, évidemment. On n'est pas prêt du tout pour cette guerre. Mais en plus... Il fout le camp tout seul à Londres et il dit ben en fait la France c'est moi. C'est dingue.
Oui, c'est presque une invention de son adolescence. Enfin, à l'âge de 15 ans, il imagine déjà le général de Gaulle. Donc, il est dans l'intuition de lui-même, hein, dans cette espèce de prémonition incroyable. Il se fabrique ce personnage, parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que, c'est en ça d'ailleurs qu'il est très littéraire, presque un écrivain. Il a créé un personnage comme vous écrivez d'un personnage de roman. Et donc, il a inventé de Gaulle. Et c'est quelqu'un d'un peu distinct de lui. Donc, à partir de là, il a construit aussi une forme de fiction qui va rejoindre l'histoire. C'est-à-dire qu'au fond, Cette fiction, elle aurait pu rester totalement du domaine de la chimère ou de l'imagination, mais il a le sentiment qu'à un moment donné, il va être utile. Donc, mais la solitude, vous avez raison. C'est sans doute, je lui ai pas trouvé d'amis dans toutes les recherches que j'ai pu faire dans ce parcours-là des 54 premières années de sa vie et même jusqu'à la fin d'ailleurs. Il a des compagnons, il a des confidents, mais il a pas d'amis. Donc il se construit dans une solitude et c'est parce qu'il est seul au fond que quelque chose va pouvoir se passer puisque de toute façon personne ne viendra à ce moment-là à sa place à Londres en juin 40. Vous savez, les Anglais attendaient Georges Mandel par exemple, qui avait été un personnage clé de la troisième et Mandel a refusé de monter dans l'avion pour Londres en disant d'abord je suis juif et on va penser que je déserte, on va m'accuser de désertion. Au fond, De Gaulle est le seul, mais il n'est pas le seul par hasard, il est le seul parce qu'il est prêt depuis longtemps. Au fond, il est prêt depuis son adolescence.
Parce que vous dites qu'en 1905, il écrit un petit roman, une nouvelle, où il imagine le général De Gaulle,
absolument,
qui sauve la France. Alors dans son délire, c'était en 1930, il s'est trompé juste de 10 années,
absolument.
Mais enfin à 15 ans, il crée ce mythe du général De Gaulle sauvant la France. C'est assez fou et puis c'est prémonitoire.
Je crois que ce genre de personnages sont dans ce genre de ce que vous appelez un délire, mais c'est-à-dire cette espèce de mythification de soi, c'est-à-dire qu'on pense que. Mais je pense que quand on est un écrivain, on se dit qu'à l'âge de 15 ans qu'on va être un grand écrivain. Je suis sûr que ça, à l'âge de 15 ans, même avant, oui. Vous soyez Frédéric Becbédé, mais moi je pense qu'il y a toujours cette idée-là chez les grands et parfois aussi chez les petits, hélas. Mais chez les grands. Donc chez lui, il y a eu cette idée, il s'est construit autour de ça. Mais ce qui est très intéressant, c'est de montrer que c'est ce que je montre dans le livre, c'est que en fait, c'est pas le général de Gaulle qu'il prévoyait qui va apparaître dans l'histoire, c'est un autre, c'est pas un chef de guerre, c'est un homme d'État, parce que la guerre, finalement, il sera jamais un chef de guerre, il sera jamais celui qu'il avait imaginé, sauf ce nom-là du général de Gaulle, porteur en plus d'un nom évidemment totalement déjà mythique, s'appelait De Gaulle, c'est déjà extraordinaire.
Mais enfin, c'est assez fou, mais il y a beaucoup de choses que j'ignorais et que j'ai apprises en lisant votre livre. Par exemple, vous dites que ça n'a pas été un chef de guerre, il a quand même été faire une bataille à Dakar, en Afrique occidentale. C'est en septembre 1940. Moi, ce passage-là, je l'ignorais, hein, vraiment. Il y a une sorte de mini-affrontement entre De Gaulle et les vichistes. Et c'est un tel échec, c'est une humiliation, puisque c'est plutôt les autorités de Vichy qui l'emportent. Il est sur des bateaux, il pense à se suicider à ce moment-là.
Alors, c'est ce qu'on a...
On est en septembre 40, hein.
Voilà, c'est ce qu'on a beaucoup dit, mais il l'avait raconté en 58 à un de ses ministres, en disant, ah oui, moi aussi, j'ai pensé à me suicidé, mais il faisait allusion à une pièce de Corneille. Et alors, dès l'instant qu'il s'agit de Corneille, on peut penser qu'il y a un peu de dramaturgie quand même. Bon, mais je pense, vous savez, chez De Gaulle, une des caractéristiques du personnage, et c'est vrai à Dakar, parce qu'à Dakar, il pense que il va arriver en Afrique et il va reconquérir finalement les territoires occupés par les vichistes, et il s'aperçoit que ça ne se passe pas si facilement. Mais il y a chez De Gaulle une des caractéristiques, c'est la mélancolie. C'est pas un dépressif, mais c'est un cyclotymique. C'est un homme qui se construit aussi sur des vides, sur des creux, sur des hauteurs. Voilà. Il est tout le temps un petit peu dans cette alternance. Et là, à ce moment-là, je ne crois pas du tout qu'il ait pensé à se suicider, mais il a peut-être pensé à renoncer. Ça lui est arrivé à plusieurs reprises.
Voilà, je suis ridicule. En tant que militaire, je suis ridicule. Donc voilà.
Il a perdu également vis-à-vis des Anglais. C'est la première fois. La première faille, finalement, à l'alliance avec Churchill et se passe à Dakar, parce que Churchill a imaginé tout ça. Et il a pensé que c'était De Gaulle qui était responsable de la défaite.
Mi-octobre 1940, un mois plus tard, une panne de moteur dans un avion au Tchad. Mmh. L'avion atterrit par miracle dans un marécage. Là aussi, il a failli mourir. Et moi, j'avais jamais entendu parler de cet accident d'avion.
Il y a une espèce de baraquin incroyable. C'est-à-dire, quand vous pensez à la suite, c'est-à-dire aux attentats auquel il va échapper. Aujourd'hui, on a une vie politique soi-disant tragique, mais à l'époque, on tentait d'assassiner les présidents, il y avait une violence politique certaine. De Gaulle a échappé à tout ça. Alors, avec une espèce de sentiment, de la vanité des choses aussi. Je crois que c'est un homme qui n'était pas très ému à l'idée de disparaître dans un accident ou quoi que ce soit.
Bah non, mais d'ailleurs.
Mais une telle confiance dans son destin, surtout. Il ne pensait pas que c'était possible.
Mais en 1915, il reçoit une balle dans la jambe. On va le soigner. Il repart au combat. Il a une balle dans la main. On retourne le soigner. Il repart au combat, il se prend une baïonnette dans la cuisse, il est fait prisonnier, il essaye de s'évader 5 fois. Mmh. À chaque fois, il est puni plus sévèrement. Mmh. C'est quand même... C'est un héros de roman, en fait, dès la Première Guerre mondiale.
Oui, c'est un vrai guerrier, d'ailleurs, qui avait théorisé des choses assez brutales, hein, sur le... dans sa jeunesse, dans des écrits que je publie, où il dit, mais au fond, les blessés, il ne faut pas les secourir sur le champ de bataille, la bataille, il faut la mener, il faut continuer à se battre, etc. Il y a chez lui quelque chose d'extrêmement dur dans sa vision de ce qu'est un soldat et dans sa propre expérience des combats. Donc c'est un homme qui a, je dis pas qu'il résiste à la souffrance, il est blessé moralement par la souffrance physique quelque part, parce que ça l'empêche de se battre. Et le drame de De Gaulle en 14, c'est qu'au fond, il aurait été plus longtemps en prison qu'il n'aurait été sur le champ de bataille. Et c'est même plus qu'un drame, c'est une tragédie, parce qu'il dira à la fin de cette période-là, mais j'ai raté ma vie. En 1918, il dit, j'ai raté ma vie. Il dit, je suis un enterré vivant.
Quand il était mis aux arrêts de rigueur, c'est-à-dire puni pour avoir tenté de s'évader, il faut bien dire ce que c'est. C'est 120 jours dans une cellule sans fenêtre, dans le noir. Absolument. Avec ni de quoi lire, ni de quoi écrire. C'est terrible, quoi. C'est une torture, quoi.
C'est une mortification terrible, mais qui aura sans doute forgé le caractère, encore plus forgé le caractère de De Gaulle, qui n'avait pas besoin de ça. Mais alors, le temps de captivité, c'est surtout quelque chose d'important pour lui, parce que c'est l'époque où puisqu'il peut pas se battre, il va faire des conférences. Mmh. Il va parler de la France, il va parler de l'Europe, il va parler de littérature, il va parler de stratégie, il va parler de politique.
Et c'est là où le militaire se transforme en homme politique,
absolument,
quoi.
C'est
pendant ces 2 ans et demi.
C'est une transformation 1915, extraordinaire, parce que là, il est pas programmé pour ça, mais au fond, son vrai destin, celui qu'il n'avait pas soupçonné, en fait, c'est celui-là. Il pensait qu'il serait un grand chef militaire, et pendant la guerre de 40, à aucun moment il ne va vraiment commander les troupes. Il va laisser ça à Leclerc, à Delattre, à Juin, etc. Pour être dans cette position de chef d'État qui lui permet, c'est ça qui est extraordinaire, lui qui n'a que 2 étoiles, de commander à des gens qui ont 5 étoiles. Et ça ne le gêne pas, parce qu'il dit, au fond, je suis au-dessus de toute hiérarchie. Je dépasse tout le monde sur un autre plan. Je suis la France. Voilà.
Votre premier choix musical, Jean-Luc Barré, c'est Gustave Mahler, l'adagietto de la symphonie numéro 5, bien connu, car on l'a entendu à plusieurs reprises dans Mort à Venise de Visconti. Et là, il est interprété par le Philharmonique de Vienne, dirigé par Leonard Bernstein en 1987. C'était Mort à Venise, l'adagietto de la symphonie numéro 5 de Mahler, choisi par Jean-Luc Barré, car Jean-Luc Barré est toujours sur une plage du Lido, en train de gambader. C'est Tadzio. Voilà, j'ai en face de moi Tadzio.
Merci. Merci de la distribution des rôles.
Dans ce petit maillot rayé. Mais c'est vrai que vous avez une chemise rayée, d'ailleurs.
Jusqu'à 20h, conversation chez La Pérouse, avec Frédéric Becbédé, sur Radio Classique.
Alors, Jean-Luc Barré, donc, je le reçois pour l'immense biographie « L'homme de personne, De Gaulle, une vie » chez Grasset, qui a reçu le prix Renaudot de l'essai cette année. Mais ce n'était pas votre premier livre sur De Gaulle. Vous avez été l'éditeur et le préfacier du général dans la Pléiade, « Les mémoires de guerre et mémoires d'espoir », ça c'était en l'an 2000. Et puis vous avez écrit « Devenir De Gaulle » en 2003, qui recouvre un peu la même période que ce premier tome. Là,
c'est-à-dire... Enfin, c'est juste 3 ans, non, en fait. Oui, « Devenir De Gaulle », c'est 40-43, alors que là, il est question des 54 premières années.
Oui, mais comment il a créé ce mythe et comment il a imposé l'idée qu'un homme seul à Londres, c'était la France libre. C'est ça qui vous fascine le plus chez lui ?
Sans doute, oui. Sans doute parce que c'est improbable, c'est invraisemblable, c'est de l'ordre de la fiction pratiquement. C'est quelque chose qui est absolument unique. Comment un homme peut faire coïncider ses rêves, je ne dis pas ses ambitions, parce qu'il n'y a pas d'ambition chez De Gaulle. Enfin, il y a une ambition pour la France, mais pas pour lui-même. Ses rêves d'adolescence avec la grande histoire. Ça, au fond, c'est arrivé à Napoléon. C'est arrivé à Alexandre. Arrivé à des personnages extrêmement rares. Mais la différence avec De Gaulle, c'est qu'il vient vraiment, oui, Richelieu a un parcours que l'on connaît, par exemple, évidemment très très clair de grands ecclésiastiques, et puis il devient ministre. De Gaulle, il surgit de quelque chose qui est absolument, c'est pas le vide évidemment, mais c'est une sorte d'anonymat. C'est pas une grande famille,
il est sous secrétaire d'État à la Défense nationale. Il part là-bas, oui.
Et pendant 50 ans, il se passe pas grand chose dans sa vie au fond, puisqu'il a raté cette grande guerre. Il est un penseur qui a été Brouwé, qui publie des livres qui se vendent à 300 exemplaires. Il a une carrière progressivement normale, mais enfin au prix de beaucoup de difficultés. Donc c'est pas un homme à 50 ans. Au fond, sa carrière aurait pu tourner court. Non, il y a quelque chose de presque pascalien, quoi, d'une espèce de pari invraisemblable qui se produit. Et c'est ça sans doute qui me fascine le plus. Oui.
Même l'appel du 18 juin 40, que aujourd'hui on étudie à l'école, en fait personne ne l'a entendu et il a même pas été enregistré.
C'est ça. Alors personne l'a entendu. Suffisamment de gens l'ont entendu. Georges Bernanos l'a entendu, oui, par exemple. Oui, bon, mais oui. Enfin, c'est pas suffisant. Et il a été c'est ça qui est extraordinaire.
Sa mère ou sa grand-mère, non, l'a entendu.
Ah, sa mère l'a entendu. Oui, sa mère l'a entendu. Elle était bouleversée, sans être surprise d'ailleurs. Elle pensait que Charles ferait ça un jour. Mais bien sûr. Et après, les discours suivants ont été entendus, mais parfois censurés. D'ailleurs, certains ont même été interdits. Il reste quand même cette parole absolument incroyable de juin 40 où il dit que De Gaulle, c'est le refus du déclin, c'est le refus de ce qui va finir. Au fond, il pense toujours que quelque chose va commencer. Et un de ses livres s'appelle Le Renouveau, c'est un des volumes de ses mémoires. Et de ce point de vue-là, il est très salutaire par rapport à l'époque que nous traversons, où tout le monde est dans l'idée du déclin, de la fin de ceci, on est la fin du roman, la fin
revenez,
de la politique.
Revenez, général, mon général, revenez. Pardon. Il y a un autre historien que vous, c'est Ian Kershaw en Angleterre, qui a écrit un livre là qui s'intitule Ces grandes figures qui ont fait l'histoire. Et il donne une liste de ce qu'il faut comme qualité pour être un grand homme dans l'histoire. De l'opportunisme, de la détermination, une confiance en son destin et un travail acharné. Sauf Hitler, qui était un paresseux complet, qui travaillait pas tellement, mais il fait comme ça une sorte de liste de qualités. Et c'est vrai que, malgré tout ça, j'ai l'impression que dans le cas du général, c'est surtout la chance, les circonstances qui ont été les plus importantes.
Moi, j'appellerais pas ça la chance, parce que, en tout cas, il a forcé le destin tout le temps, quand même. Oui. Il n'y a pas de chance, il y a simplement le fait que... D'abord, les circonstances, oui, mais ce que je montre dans le
savoir
livre,
c'est saisir que... le moment, quoi.
Oui, ça... mais il y a une vision derrière tout ça. C'est-à-dire qu'au fond, vous savez, il disait aux Américains, il leur disait, tout ça, je le dis depuis 1000 ans. Donc, c'est incroyable en soi. Bon, eh bien, ça veut dire que ça faisait 1000 ans, quelque part, évidemment, c'est une image, mais l'héritage, la vision, etc. Et il y a un moment où il est prêt. Mais encore une fois, je reviens à l'idée du grand acteur. Il a été formé pour le théâtre par ses parents.
Oui,
et il y a le sens de la mise en scène. Et au fond, il entre en scène au moment opportun. C'est-à-dire où l'intrigue va être évidemment la plus dense, la plus riche, la plus tragique. Donc, c'est pas de la chance, c'est le sens des circonstances. Mais c'est chez lui, au fond, vous savez, il y a un livre qui s'appelle Le fil de l'épée. Oui. Où il a déjà, c'est en 32, donc 8 ans avant, il a tracé tout ça. Il a raconté tout ça. Le personnage est là. Il l'a inventé. Donc, c'est pas de la chance, c'est le fait que, alors. Ce qui est vrai, c'est qu'il est là où les autres ne sont pas, mais pas par sa faute.
Et vous dites d'ailleurs, vous rappelez qu'il connaissait Cyrano de Bergerac par cœur.
Absolument.
Ça, c'est...
Il y a un côté Cyrano chez lui.
Oui,
il y a un côté un peu déclamatoire, un peu emphatique, un peu panache comme ça. Voilà.
Mais
il y a aussi un côté cornélien.
Et alors, vous disiez tout à l'heure, juste avant, c'est dommage, il n'y a plus personne comme ça. Aujourd'hui, qui pourrait dire a une vision équivalente, c'est-à-dire à la fois l'instinct, la culture, le sens du mythe. Je cherche. Alors, je vous donne une liste. Est-ce que c'est Emmanuel Macron? Est-ce que c'est Jean-Luc Mélenchon? Est-ce qu'il y a un homme providentiel qui va arriver, qui va sauver la France? Peut-être c'est vous. Peut-être c'est moi.
Je me disais quand même, j'arrive tard sur cette liste.
Oui, c'est vrai.
Mais vous êtes avant moi, bien sûr.
Mais en fait, j'en ai quand même trouvé deux récemment. Qui ont eu quelque chose de gaullien, c'est Volodymyr Zelensky en Ukraine, puisqu'on pensait que c'était un comique, un clown, et que tout d'un coup il se révèle un vrai chef de guerre, chef d'État.
Attendons un petit peu quand même,
Vérifier.
Oui.
Et un autre, alors, qui a fait quelque chose de très, un peu comme le départ à Londres, c'est Prigogine, Evgeny Prigogine, qui tout d'un coup à la tête de Wagner dit non, moi j'en ai marre, je vais monter sur Moscou avec mes chars, qui descend des hélicoptères, et il remonte vers Moscou. Bon, et ben, il n'est pas allé au bout du raisonnement et il l'a payé très cher.
Mais oui, il est plus de l'ordre de l'aventurier. Franchement, c'est pas un homme d'État. C'est pas. Je pense que Macron, le problème d'Emmanuel Macron, c'est sans doute le manque de vision et d'expérience de l'État. Moi, je pense qu'il y a de ça. Il y a pas une expérience. Ce qui me frappe le plus, c'est qu'aujourd'hui, tous ces dirigeants sont dans l'actualité, jamais dans l'histoire.
Oui.
À aucun moment. Ils ne pensent pas en termes d'histoire. Par exemple, vous voyez les événements qui viennent de se dérouler en Israël. Je pense qu'un homme comme le général de Gaulle, qui en avait parlé dès 67, demeurant des problèmes de colonisation, n'aurait pas été surpris. On a l'impression que l'actualité fait que tous ces dirigeants sont surpris sans arrêt, même sur l'histoire de l'Ukraine. Je pense que même un homme comme Chirac n'aurait pas été surpris. Je dis pas qu'il avait une vision. Chirac avait une vision d'une une certaine culture du monde.
Oui.
Ça, c'était très impressionnant.
Oui, et puis d'ailleurs, vous avez travaillé et écrit avec lui ses mémoires, Jacques Chirac, donc vous le connaissiez très très bien. C'est peut-être le dernier vraiment gaullien, puisque il y a ce moment de l'Irak, là où il refuse de soutenir la guerre en Irak. Ça, c'est un acte très qui pourrait être un acte du général.
Ouais, quand on me parle du gaullisme, je dis toujours c'est comme l'amour, il n'y a pas de gaullisme, il y a des preuves de gaullisme. Et c'est vrai, parce que c'est pas une doctrine, le gaullisme. C'est simplement des attitudes par rapport à l'histoire. C'est des positions que l'on prend. Et Chirac, à propos de l'Irak, a été à ce moment-là totalement gaullien. Lui qui, quand je lui en parlais d'ailleurs, me parlait surtout de Pompidou. Il m'avait dit un jour d'ailleurs, en plaisantant, vous savez, Pompidou, c'est un peu mon De Gaulle. Bon, voilà, donc ça veut dire qu'il y avait une sorte d'humilité par rapport à ça. Mais sa vision du monde, par exemple, allez aujourd'hui au musée du Quai Branly, vous verrez ce qui est aussi, quelque part, une vision gaullienne de l'histoire du monde, des grandes civilisations, etc. Ça, c'est très gaullien. Et donc, aujourd'hui, je ne crois pas que Mélenchon soit gaulliste, le moins du monde. Pour le reste, je serais prudent, j'en sais rien. Il faut du temps pour savoir qui a un rôle dans l'histoire.
Qu'apporte votre biographie de plus que Jean Lacoutu en 84, Éric Roussel en 2002 ou l'anglais Julian Jackson en 2019? Je vais vous demander de lire la préface parce que vous répondez à cette question, alors c'est pas la peine de travailler.
D'accord. Une idée très répandue veut que tout était dit et écrit sur le sujet. Encore De Gaulle. Que de fois n'ai-je entendu cette phrase depuis que j'ai entrepris ce travail, il y a une dizaine d'années. Tout se passe comme si on estimait en savoir déjà assez par crainte d'en savoir trop, et qu'il n'y ait plus rien à ajouter à un dossier clos une fois pour toutes. Pourquoi faudrait-il qu'une figure historique d'une telle dimension ait livré tous ses secrets à peine un demi-siècle après sa disparition? Ce serait beaucoup sous-estimer la complexité du personnage, sa propension à s'envelopper de ruses et de mystères, en dépit de la multitude des portraits, exégèses et témoignages qui lui ont été consacrés. Force est de reconnaître que le jeu du héros demeure sous bien des aspects et en bien des situations toujours difficiles à appréhender.
Vous, notamment, alors moi je lui disais, est-ce qu'il va nous apprendre des choses sexuelles sur le général?
Ben un peu.
Eh bien un peu,
ben
un
oui.
peu. Il y a une rivalité avec le maréchal Pétain sur une jeune femme qu'il revoit en 64 au Mexique.
Absolument, il la reconnaît pas parce qu'il a des problèmes de vue, mais elle le reconnaît et l'entourage sait que c'est elle d'ailleurs. Et alors ce qui est assez drôle à l'époque, c'est que, enfin à l'époque de leur rencontre, la première rencontre à Arras, c'est que vous savez, Pétain avait théorisé la guerre d'usure et De Gaulle la guerre de mouvement, et il disait en amour, c'est la même chose. Pétain, c'est la guerre du
oui.
Vide, moi, c'est le mouvement.
Voilà. Oui, c'est
mais en même temps, il disait, il avait une certaine expérience, plus que moi, hein, sur le plan. Vous savez, ça fait partie, ça aussi, des choses que j'ai voulu. Vous me demandez ce qu'il y a de nouveau dans le livre. Une des choses que j'ai voulu faire dans ce livre, c'est quelque part sortir De Gaulle de son mausolée, le rendre vivant, avec ses défauts, ses qualités, tout ce qu'il était, ce côté parfois monstrueux, arrogant, etc. Et puis, par exemple, sur les femmes, j'entendais toujours dire, mais au fond, il y a eu tante Yvonne, et puis voilà. Alors, c'est pas vrai, c'est un homme qui avait une santé robuste dans tous les domaines.
Non, mais est-ce qu'il y a eu en même temps qu'Yvonne, ou c'était avant? Il y a une princesse polonaise avant?
Alors, la princesse polonaise, c'est avant, mais il y a eu sans doute Élisabeth de Miribel en 40, c'est-à-dire qu'elle était sa secrétaire.
Oui.
On raconte que quand, après la guerre, Élisabeth de Miribel venait à Colombey, Yvonne de Gaulle montait tout de suite dans les étages. Elle disparaissait dans les étages. Donc je pense qu'il y a, et puis le regard qu'il avait jeté sur Jackie Kennedy, sur Bardot, mais évidemment, je ne dis pas qu'il a été l'amant de ces femmes-là, mais il avait le goût des femmes, le goût de la vie, simplement, et donc de la bonne chair dans tous les sens du mot.
Très bonne transition avec la valse romantique de Claude Debussy, qui est votre deuxième choix musical, Jean-Luc Barré, et c'est Aldo Ciccolini au piano en 1991.
Conversation chez Lapérouse avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique.
Oui, mais surtout avec Jean-Luc Barré, le biographe du général de Gaulle chez Grasset. Ça s'intitule « L'homme de personne ». Vous avez aussi écrit, Jean-Luc Barré, sur Jacques Maritain, Dominique de Roux, François Mauriac. Vous êtes un des premiers, je crois, à avoir révélé son homosexualité. Et ben, Philippe Berthelot.
Le premier, on peut dire. Le premier. Ça m'a coûté suffisamment cher auprès des mauriaciens qui ont trouvé ça scandaleux, bien sûr.
Oui. Vous avez collaboré aux mémoires de Jacques Chirac. Est-ce vous qui les avez écrits?
C'est plus compliqué que cela, contrairement à ce que j'entends dire. Mais c'est-à-dire que Chirac, d'abord, effectivement, n'écrivait pas. Mais on peut pas écrire ce genre de livre si on n'a pas près de soi un homme qui vous raconte beaucoup d'histoires. Et il avait de sens des formules, surtout. Il y a dans les mémoires des formules qui sont vraiment de lui. Après, l'idée même d'écrire des mémoires lui répugnait un peu parce que, simplement, il voulait pas revenir, comme il disait, une vache ne revient pas à l'abreuvoir. Voilà. Donc c'était l'idée de...
Donc vous avez tiré les vers du nez pendant quelques années.
Oui, une période un peu tragique de sa vie, mais ça a été le dernier enjeu de sa vie aussi de laisser une trace parce que il s'était laissé convaincre. Ça a été un moment, écoutez, ça a été 3 années délicieuses de ma vie parce que j'ai rencontré un homme, on le dit méchant, on le dit ceci, mais c'était un homme très humain, pas méchant d'ailleurs, dur, mais c'était un homme très humain et je l'ai rencontré évidemment dans une période où il n'était plus au pouvoir. Mmh. Et c'était, vous l'auriez adoré, hein, vous l'auriez adoré Frédéric, parce qu'il avait, il avait un humour incroyable, il était très attentif aux autres, il était très libre finalement par rapport à lui-même.
C'était aimé d'ailleurs des Français.
Et il pratiquait, contrairement à beaucoup de ses successeurs, une forme d'autodérision. Il n'était pas tellement au sérieux finalement. Peut-être à tort d'ailleurs, mais en tout cas, il n'avait pas ce goût de lui-même qu'on connaît à d'autres.
Le fumet du dîner du réveillon, les odeurs de pain d'épices, le parfum des invités qui se sont mis sur leur 31, il y a des odeurs qu'on n'oublie pas. Joël, lui aussi, les connaît. Sauf que pour lui, elles ne sont plus qu'un souvenir. Car il ne le sait pas encore, mais depuis 5 ans, Joël souffre de polypose nasale. Perte d'odorat et du goût, nez qui coule, douleur au visage, la polypose nasale touche près d'1 million de Français. Des solutions existent. Parlez-en à votre médecin et rendez-vous sur polypose-nasale.fr. C'était un message de Sanofi.
Fort de son succès, Le Bourgeois Gentilhomme de Lully et Molière revient du 4 au 14 janvier à l'Opéra Royal du Château de Versailles. Denis Podalydès rend hommage à ce grand classique du théâtre français avec une mise en scène pleine d'humour et de légèreté et des costumes de Christian Lacroix redonnant vie à l'esprit moqueur de Molière. Émerveillement garanti avec Le Bourgeois Gentilhomme du 4 au 14 janvier à l'Opéra Royal du Château de Versailles. Réservation sur châteauversailles-spectacle.fr.
Partez à la rencontre de Gustave Eiffel dans le nouveau hors-série du Parisien. Partagez l'ascension extraordinaire de ce génie du fer qui, seul contre tous, imposa ses projets les plus fous, dont sa fameuse tour de métal. Découvrez aussi les côtés plus sombres du célèbre ingénieur et entrepreneur. Gustave Eiffel, un hors-série exceptionnel du Parisien, chez votre marchand de journaux.
Le Lido 2 Paris rouvre ses portes pour les fêtes. Venez vivre sa magie unique en assistant à la comédie musicale la plus hilarante jamais écrite, Le Forum en folie de Stephen Sondheim. Cette expérience de cabaret extraordinaire dans cette nouvelle salle sur les Champs-Élysées vous transportera entre Broadway et Las Vegas. Réservation sur lido2paris.com.
Jeanne, donatrice du fonds de dotation du Louvre.
Ma passion, c'est l'art et l'histoire. Alors, j'ai eu envie de transmettre mon patrimoine à une cause utile qui me tienne à cœur, une institution fiable et solide. J'ai décidé de faire un legs au fonds de dotation du Louvre pour que les générations futures aient accès à ce musée qui compte tant pour moi.
Pour en savoir plus sur les legs au fonds de dotation du Louvre et les assurances vie, contactez-nous au 01 40 20 84 84 ou écrivez-nous à legs@louvre.fr.
Jusqu'à 20h, conversation chez Lapérouse avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique.
Je suis toujours avec Jean-Luc Barré qui publie l'immense biographie du général de Gaulle chez Grasset. Ce travail monumental que vous venez de publier sur le général de Gaulle, je vous ai demandé mais pourquoi encore une biographie de Gaulle, mais vous avez répondu très bien, mais vous avez oublié de dire que vous êtes le premier à avoir eu accès aux archives personnelles avec beaucoup de témoignages nouveaux parce que vous avez la confiance de son fils Philippe de Gaulle.
Alors Philippe de Gaulle
qui a 101 ans.
Voilà, il va avoir 102 ans le 28 décembre. Je vais le voir d'ailleurs dans quelques jours et il se trouve que Philippe de Gaulle, à aucun moment, d'abord, il n'a pas lu ce livre avant sa publication, et à aucun moment, il m'a dit, écoutez, il faut dire ceci ou cela. Et il m'a confié les archives. Et j'étais le premier, puisque, il y a une dizaine d'années maintenant, il avait refusé à tous les historiens cet accès, donc, c'est-à-dire, aucun biographe avant moi n'avait eu accès à ces archives. C'est 100 000 documents.
Oui.
Dont tous ne sont pas, évidemment, de la même importance, mais, et donc, j'ai pu travailler grâce à lui sur les sources. Moi, ce qui m'importait, c'était vraiment d'aller aux sources. Par exemple, sur les mémoires de guerre, j'avais demandé pour la Pléiade, j'avais demandé à accéder au repentir.
Mmh. C'est-à-dire tout ce qu'il a coupé.
Voilà, par exemple, si vous, demain, quand vous serez dans la Pléiade, on va chercher à savoir ce que vous avez masqué.
Je ne veux pas qu'on sache tout ce que j'ai enlevé de mes livres. Voilà. Ce serait trop embarrassant.
Vous voyez, ce que vous avez caché ou ce que vous n'avez pas voulu publier. Et lui, ça avait évidemment une importance politique.
Vous en parlez beaucoup, c'est très intéressant.
Voilà, il y a toute une série d'extraits qui ont été publiés dans la Pléiade et que j'ai repris, puisque je les avais moi-même exhumés. Et donc, l'amiral m'a ouvert cela, et ce qui m'a permis de faire un travail, non pas d'après les témoignages, parce qu'au fond, la couture avait beaucoup travaillé, la couture au passage, qui avait été toute sa vie un antigaulliste fervent et qui s'est découvert une espèce de passion pour De Gaulle post-mortem et qui a fait une biographie qui est en réalité une hagiographie d'un converti, mais qui manque pas de charme ni d'intérêt. Et donc, moi, d'abord, je suis gaulliste depuis toujours, c'est comme ça, je suis né dans le gaullisme, adolescent, j'étais gaulliste, j'ai toujours admiré De Gaulle comme un héros de roman, et donc, ça m'a imposé une forme de distance par rapport à lui, comme si je me tenais à distance d'un objet comme ça amoureux, d'un sujet d'amour finalement, ou de vénération, ou d'admiration. Je le vénère pas, mais je l'admire profondément, bien sûr. Et ça m'a imposé, en tant qu'historien, le souci de, souvent on me dit, vous lui passez rien, ben je lui passe rien.
Non, mais bien sûr. Et puis même, on apprend beaucoup de choses. La relation très complexe entre De Gaulle et Churchill. Churchill dit qu'il se prend pour Jeanne d'Arc, De Gaulle.
Et en même temps,
c'est lui qui le crée.
Pour Jeanne d'Arc. Parce qu'il se prend pour un homme, il pense qu'il est l'héritier de toute l'histoire de France. Et c'est ça sa force. Et c'est d'ailleurs évidemment politiquement ce qui le rend supérieur à tellement de gens. Il n'est pas l'homme d'une carrière. Il n'est pas l'homme qui naît d'un parcours classique. Il est l'héritier de l'histoire de France. Et il s'érige comme ça. Et Jeanne d'Arc évidemment est le modèle. Il y a Philippe le Bel, il y a Louis XIV, il y a Napoléon, etc. Il a tout accumulé autour de lui. Et c'est ce qui fait que d'ailleurs en 40, quand il est face à Churchill, qui lui est à la tête d'un État qui fonctionne, d'une armée, d'un empire, etc., que la France n'a plus rien, mais il dit moi j'arrive avec la France. J'arrive avec tout l'héritage, quoi, finalement.
Oui, c'est complètement fou.
Mais oui, c'est fou. Mais c'est
comme
ça qu'il tient.
C'est un coup de poker d'un type complètement mégalo, qui se prend pour Napoléon aussi, un petit peu.
Moi, je dirais pas mégalo, je pense qu'il est en ça, profondément, ou alors c'est la mégalo d'un écrivain, c'est la mégalo d'un presque non romancier lui-même, quoi, qui s'est imaginé ce personnage-là, et qui ne savait pas à quel point il en aurait besoin. Il ne savait pas à quel point il ne resterait que ça. C'est-à-dire qu'il ne resterait que De Gaulle et quelques personnes autour de lui. Vous savez, ils n'étaient pas très nombreux, vous le savez, le 18 juin. Lui qui détestait les bourgeois, a constaté d'ailleurs à ce moment-là que les bourgeois n'étaient pas là, que beaucoup de gens n'étaient pas là. Il avait une phrase formidable, il disait « Les possédants sont possédés parce qu'ils possèdent
».
C'est une phrase extraordinaire. Et donc il disait « Vous voyez, le petit peuple de l'île de Sein, il est là.
Bah, » Ils sont restés parce
tous les apatrides
leur propriété.
Étaient là.
Oui, exactement.
Voilà,
oui,
absolument. Mais donc, s'il n'avait pas eu à ce moment-là ce personnage en recours, finalement, il est le recours de lui-même. C'est par lui que la France survit, quelque part. Et il est une sorte de mendiant orgueilleux. Il est d'un orgueil fou, alors qu'il n'a rien.
C'est ça, ouais. Sur Yvonne, encore une chose que j'ai apprise, c'était un mariage arrangé, ce qu'on appelle aujourd'hui un blind date, organisé par des amis qui présentent Yvonne Vandroux. Et lui, c'est pas très gentil, ils vont dans un bal à Saint-Cyr, un bal de Saint-Cyr à Versailles, pardon. Et lui dit, j'épouse les biscuits Vandroux.
Oui. Alors, c'est pas un mariage arrangé, c'est un mariage, si vous voulez, c'est un mariage d'amour arrangé. En ce sens que...
Ils se sont vraiment aimés.
Voilà. Ouais. Elle et lui ont refusé à plusieurs reprises d'épouser l'homme ou la femme qu'on leur destinait, que leur famille leur destinait. Ils se sont rencontrés, ça a été un vrai mariage d'amour. Philippe de Gaulle, leur fils, me disait, encore récemment, il me disait, mais elle n'aimait que lui. C'est-à-dire l'air de dire, elle ne nous aimait pas, nous, ses enfants. Elle n'avait qu'une passion. Et c'est sans doute assez réciproque. Alors, les biscuits Vandroux, c'est savoureux, parce qu'en effet, à ce moment-là, De Gaulle arrive avec très peu de moyens. Il n'a pas d'argent, sa famille n'a pas d'argent, et les Vandroux sont très riches.
Oui.
Et donc, c'est une façon aussi de dire, je n'appartiens à personne.
J'ai un jeu dans mon émission qui s'appelle Devine tes citations. Donc, je vais vous dire des phrases de vous, et vous devez me dire où vous avez écrit ceci. Nous vivons dans un monde de faussaires.
dans un roman qui s'appelle Le Corps d'origine.
Exact, en 2021. Et c'est un personnage qui s'appelle Guillaume Roussel. C'est un roman à clé un peu. Qui c'est ce Guillaume? C'est un homme politique
Oui, c'est un homme politique. C'est un mélange de plusieurs hommes politiques, d'une famille politique qui est plutôt la mienne, c'est-à-dire une forme de droite. Enfin, je ne me reconnais pas à droite, mais enfin, ouais. Voilà, disons droite chiracienne, si vous voulez. Il y a au moins deux personnages qui sont très engagés encore aujourd'hui. Mmh. C'est-à-dire des gens qui... Ce qui me fascine, c'est la manière dont cette classe politique aujourd'hui se construit. Alors là, c'est pour le coup, c'est pas très gaullien. Se construit des personnages qui sont des faux, des personnages ouais. d'emprunt. Et puis, de temps en temps, ils se font avoir parce que la vérité les rejoint de manière très brutale.
Et vous avez écrit aussi en 2018 un autre roman, Pervers, dont le héros Victor Marlioz est président de l'Académie Goncourt mmh. et sa fille se suicide.
Pensais à Simenon beaucoup d'ailleurs, ouais. c'était plus Simenon, on l'a attribué ce roman à Nourricier d'ailleurs, c'est oui. vrai qu'il y a un peu de Nourricier, hein, bon,
oui, ouais. oui.
Non, ce qui me fascine toujours, c'est la manière dont certains écrivains, peut-être tous d'ailleurs, ont besoin de piller, d'exploiter tout ce qu'ils ont autour d'eux pour pouvoir écrire.
Bah, bien sûr.
Alors c'est presque banal, sauf que chez Simenon par exemple, c'est allé très loin parce qu'il mettait en scène ouais. la déchéance de ça, et Nourricier ouais. un peu l'a fait ouais. aussi avec son épouse.
Ouais. Autre phrase de vous. Le premier devoir pour un écrivain dans un monde en mutation, c'est la provocation.
Oui, ça doit être dans Dominique Deroux, n'est-ce
oui.
pas?
Oui, mais c'est, en fait, c'est pas de vous, c'est de Dominique Deroux, mais vous l'avez cité dans oui. La biographie.
Oui, je crois beaucoup à la provocation, consacré, moi. Je voilà. crois beaucoup que c'est comme ça qu'on peut, dans mon travail d'éditeur, j'y pense toujours, et je pense qu'il y a des moments où c'est la remise en marche, disait-il, la provocation. Et j'aime beaucoup cette formule.
Oui. Et pourquoi vous vous intéressiez à Deroux? Le romancier, le pamphlétaire? Je rappelle qu'il a créé les Cahiers de Lerne, qu'il était un défenseur de Céline, Gombrowicz, d'Ezra Pound, éditeur aussi, comme vous. Ou alors, est-ce que c'est la révolution portugaise, sa guérilla en Angola?
Non, mais moi, j'aime bien tous ces thèmes-là. Au fond, c'est un personnage dans lequel je me retrouve un peu, dans le sens qu'il aime la littérature, il aime la politique, il aime l'engagement, il aime l'aventure, il aime effectivement une forme de révolution. Je ne suis pas révolutionnaire, mais enfin, je trouve beaucoup de charme aux révolutions quand elles sont intéressante évidemment, digne d'intérêt sur le plan historique, mais c'est tout ça je le retrouvais, puis ce sens de cette solitude, ce sens de la précarité aussi qui était la sienne, et moi j'avais été fasciné quand au moment de sa mort, intrigué surtout au moment de sa mort par cette mort précoce d'un homme qui a 40 ans et mort je sais de quoi après, mais qui avait bouclé sa vie en si peu de temps quoi. Il avait tout fait en si peu de temps, et j'aime les personnages comme ça qui sont capables de faire coexister plusieurs mondes en eux.
Votre troisième choix musical, Jean-Luc Barré, c'est Tchaïkovski, le concerto pour violon et orchestre, avec David Oistrakh au violon et l'orchestre de Philadelphie en 1959.
Conversation chez Lapérouse avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique.
Je suis toujours en conversation chez Lapérouse avec Jean-Luc Barré, le biographe du général de Gaulle. Son livre s'intitule « De Gaulle, une vie, l'homme de personne » et c'est chez Grasset. Il y a d'autres phrases que j'avais envie de vous citer, notamment le moment où de Gaulle rencontre Romain Gary à Londres. Et donc Romain Gary avait désobéi.
Il avait des problèmes avec un officier britannique, oui. Mais voilà. Il avait rallié la France libre et il avait un peu à l'époque, il y avait certains migrants comme lui étaient sous les ordres d'officiers britanniques avant la constitution de l'armée.
Voilà, donc il était un peu Gary vient un peu se plaindre au général en disant il y en a marre, moi ce que je veux c'est me battre. Le général lui dit n'oubliez pas de vous faire tuer et l'autre part en disant oui mon général. Et de Gaulle ajoute « Mais vous vous en tirerez, il n'y a que les meilleurs qui se font tuer. »
On peut penser que c'est une forme d'humour extrême, mais c'est sans doute vrai. Et puis en même temps, c'est une façon de dire « Écoutez, c'est grave, l'enjeu est grave, quoi. C'est un jeu, c'est la vie ou la mort. » Et quelque part, effectivement, il n'y a que ceux qui pourront... Enfin, il n'y a pas que ceux qui sont les plus valeureux qui vont mourir, naturellement. Mais c'est une manière de dire, voilà, c'est quelque chose,
arrêtez de vous plaindre aussi.
Oui, il y a ça aussi.
Et c'est assez marrant parce que tous les gens qui vont voir le général à Londres, alors qu'il n'est, encore une fois, il le dit lui-même, je suis l'homme de personne, les gens vont le voir, on pourrait se dire qu'il va les accueillir à bras ouverts, en souriant et en leur tapant dans le dos. Pas du tout.
Jamais.
À chaque fois, il est extrêmement froid,
hautain, désagréable,
antipathique, et tous se disent, bon voilà, j'ai tout pour soutenir ce type seul, et ils se font engueuler, en gros.
Et en même temps, l'un d'entre eux disait, mais au fond, nous étions tous amoureux de lui. C'est ça qui est extraordinaire, c'est-à-dire qu'ils étaient amoureux parce que ils savaient que là, ils rencontraient ce qui arrive à très peu de gens dans une vie, un personnage exceptionnel. Alors avec ce côté extrêmement rude, brutal, et en même temps une grande capacité vis-à-vis des plus modestes d'ailleurs, des gens du peuple, souvent il était d'une proximité incroyable. Il a jamais maltraité ses subordonnés les plus modestes. Le reste, effectivement, d'abord vous parliez de provocation. N'oubliez pas la part de la provocation chez De Gaulle, elle est permanente.
Oui. Alors, vous êtes donc écrivain, historien, biographe, mais vous êtes aussi un grand éditeur. Vous avez succédé à Guy Scheller, qui a créé la collection Bouquins. Et puis ensuite, ce fut Daniel Rondeau, qui a dirigé cette collection pendant un certain temps. Et puis, vous avez créé, quand l'an dernier, les éditions Bouquins.
Il y a deux ans.
Oui. Pourquoi vous en aviez marre des archives? Vous aviez envie de publier des vivants, enfin un peu plus de...
D'abord, dans la collection Bouquins,
oui,
il y a aujourd'hui beaucoup de vivants.
Bien sûr, il y a Yann Moix, il y a Sylvain Tesson.
Il va y avoir cette année Dominique Bonnat, il va y avoir Laura Adler, il va y avoir Annie Lebrun. Que vous avez d'ailleurs formidablement salué dans le Figaro Magazine. Et Annie Lebrun, vous avez raison, c'est une femme libre, quoi. C'est un prototype de femme libre. Non, j'avais envie d'un peu d'autonomie. Il y avait une évolution qui se produisait dans le groupe Editis. C'est un groupe qui bouge beaucoup, mais enfin là, je crois qu'il est en train de bien se stabiliser. Et donc, c'est une aventure que j'avais... Il se trouve que je publiais chez Lafon avant beaucoup d'auteurs, comme Catherine Ney, etc. Mmh. Et j'avais envie de prendre mon autonomie. Voilà, c'est tout.
Comment vous choisissez... Alors, je rappelle que vous êtes l'éditeur, donc, dans la collection Bouquins, par exemple, du bloc-notes de François Mauriac, de la correspondance de Tchekhov, les nouvelles de Zweig, l'intégrale de San Antonio, ça, merci beaucoup, parce que c'est vrai que c'est important d'avoir l'intégrale.
Bien sûr.
Le journal de Mathieu Gallet, celui d'Yann Moix. Comment vous décidez
Vous savez, il y a une part de flair personnel et puis de sensibilité personnelle. C'est extrêmement difficile. Je ne publie pas forcément que des auteurs que je lis, qui sont des auteurs de chevet. Par Mathieu Gallet, je le lisais depuis le début. Ce journal m'a toujours accompagné. Et donc, un jour, je m'étais dit, il sera dans la collection. Après, il y a des auteurs dont je me dis qu'ils sont aussi un peu à la hauteur de la collection. Parce que il m'est arrivé, je ne citerai pas de nom, je vous le dis tout de suite, mais de me tromper sur 3 ou 4 noms et je l'ai payé très vite parce que le public n'a pas suivi. Comme si le public me disait, non, ça, il doit pas être là.
Enfin, il y a souvent des auteurs qui se vendent pas et c'est important de le faire
Ça n'a rien à voir.
Je pense à Jacques-Alain Léger, par exemple.
Ah non, ça n'a rien à voir. Jacques-Alain Léger, même si ça n'est pas, évidemment, si je vous dis le contraire, ça vous surprendrait une vente record. Je suis extrêmement fier. Ça s'appelle le patrimoine, ça. Ça, c'est encore autre chose. Mais je ne cède pas à la mode, quoi. J'essaie de pas céder à la mode. Je me dis, tel ou tel écrivain est digne d'entrer dans une collection comme celle-là. Non pas par rapport à moi, mais par rapport à ce qu'il y a avant. dans la collection. Toute cette collection que vous connaissez bien, elle accompagne depuis 45 ans. Elle est là et elle accompagne d'abord des générations de lecteurs. Et elle a permis surtout d'exhumer quantité d'auteurs, même de sauver des auteurs. Maurice Barrès, par exemple, n'est publié nulle part en dehors de bouquins parce que il répond pas aux codes de l'époque, etc. Et la Pléiade, évidemment, se tient à distance.
Oui. Comme romancier, donc j'ai cité Pervers et Le Corps d'Origine, vos deux romans, ce sont des romans réalistes, c'est-à-dire que vous n'êtes pas un fou de l'imagination. Mais en tant qu'éditeur, si.
Non, enfin, je pense que je sais pas si, en tout cas, les personnages, je les ai imaginés. Oui, vous avez sans doute raison. Je suis très imprégné d'expériences à la fois éditoriales, politiques. Et je trouve, par exemple, si je prends le cas de la politique, je trouve aujourd'hui étonnant que la politique, c'est peut-être un des derniers domaines romanesques finalement. Regardez ce qui se passe autour de nous. Regardez tous ces personnages qui sont le personnage de Macron est un personnage complètement romanesque et personne n'écrit là-dessus. Et c'est vrai qu'une des questions que je m'étais posée avant de me lancer dans le roman, c'était de contourner, est-ce que je devais ou non contourner l'autofiction. Je pense qu'un jour, je parlerai un peu plus de moi, peut-être, mais j'aime pas trop ce déballage-là. Et donc, je reviens, au fond, j'admire Balzac, j'admire Flaubert, et peut-être que le côté, l'admiration que j'ai pour Balzac m'a un peu entraîné à écrire des romans que vous appelez réalistes.
Oui, ce qui n'est pas un défaut, hein, d'ailleurs. C'était pas un reproche.
C'était une société d'époque, et puis voilà. Mais quelque part, ces romans me permettent aussi de me retrouver dans des territoires qui sont les miens, à la fois effectivement le monde de la création et le monde de la politique.
Oui, et puis vous êtes, là dans ce livre, L'homme de personne sur De Gaulle, c'est un livre très romanesque en fait. Moi, j'étais absorbé. Ma femme ne m'a jamais vu lire autant, dévorer autant, parce que à partir du moment où il fout le camp à Londres, cette histoire, elle est incroyable. Et puis il y a beaucoup de, encore une fois, d'autres choses que vous avez révélées, son intuition, par exemple, de la fin du système colonial dès les années 30, comme Maurras. Comme Clémenceau,
absolument. Mais c'est même dès 1912, quand il quitte le Saint-Cyr pour choisir l'arme dans laquelle il va servir, et il choisit pas la coloniale, où on s'amusait beaucoup plus, mais il va dans l'infanterie à Arras, où on s'amusait beaucoup moins. Et donc, parce qu'il a le sentiment que c'est une grande illusion. Et que tout ou tard, ça coûtera cher, et que tout ou tard, cher financièrement et cher politiquement. Et donc, il va pas cesser d'allumer des signaux en disant, mais, alors, ok, l'empire colonial, pourquoi pas, mais faisons attention aux droits des populations. Et c'est comme ça qu'en 31, à Beyrouth, un culot incroyable, parce qu'on n'a pas parlé de son culot, il est pratiquement rien à l'époque, il est capitaine, il fait un discours dans lequel il lance un appel à l'élite libanaise pour qu'elle construise un État, autrement dit qu'elle prenne son indépendance. Bon, et il a donné, dès 43, il a pris les premières mesures démocratiques en faveur des populations algériennes, en vain, parce qu'il va se heurter tout de suite au conservatisme ambiant. Si bien que dans le troisième volume de ma biographie, au moment où je vais arriver en 58, je pense que les lecteurs depuis le début de cette aventure, sauront ce qu'il va faire en 58, alors qu'on se pose toujours la question de savoir s'il a hésité à propos de l'Algérie.
Alors, cela dit, les institutions de la Ve République, qui commencent en 58, il les a imaginées 17 ans plus tôt, en 41.
Oui, ça c'est un document que j'ai retrouvé dans ses archives. À ce moment-là, il trace le contour de ce que va être... c'est même pas le contour, il précise exactement ce que vont être les fonctions des uns et des autres. Et il y a un pouvoir exécutif et un pouvoir législatif. Et le pouvoir exécutif est exercé évidemment par une autorité suprême qui sera celle dont il va doter les institutions de 58.
Mais est-ce que le fait qu'il ait été monarchiste à une époque a joué dans cette création de la Ve République?
Sûrement, à mon sens, il a créé le système politique idéal. C'est-à-dire celui, là aussi, qui nous permet de rencontrer l'histoire, tous les âges de l'histoire. L'âge monarchique et l'âge révolutionnaire. L'âge révolutionnaire, c'est le Parlement, et l'âge monarchique, c'est un pouvoir incarné. C'est un pouvoir monarchique. Oui, il a été un grand monarque. D'ailleurs, le dernier volume de cette trilogie va s'appeler Le Dernier Souverain.
Mais c'est dommage.
Mais un souverain qui a toujours mis en cause son pouvoir, c'est ça la nouveauté.
Et notamment en créant l'élection présidentielle en 62.
Et en démissionnant quand il avait perdu une élection, ce qui est un exemple qui n'a pas été suivi depuis, vous aurez observé.
Oui, mais vous dites quand même qu'il a très bien réussi sa constitution. C'est pas sûr, aujourd'hui on critique beaucoup la Ve République, il y a beaucoup de gens qui veulent qu'on passe à une Sixième République.
Là, vous savez ce dont rêve la classe politique? C'est Malraux qui avait dit ça. Au fond, la classe politique en veut à De Gaulle de l'empêcher de jouer. Ils adorent jouer. Et, oui, et donc,
on
jouer,
devrait revenir ça... à la quatrième.
Mais oui, quoi, mais ouais. C'est formidable. Il y avait des gouvernements tous les matins, et on y a des élections nouvelles, etc. De Gaulle empêche ça. Et au fond, ce que je crois aujourd'hui, ce qu'on reproche à la Constitution, c'est lié au fait qu'on ne l'applique pas. Et comme on ne l'applique pas, on lui reproche d'être ce qu'elle n'est pas, quelque part. Je prends un exemple très, très simple. Le gouvernement de Gaulle a toujours des institutions. Il y a un président de la République qui est sur les grands domaines, le domaine régalien, les grands sujets. Ouais. Et puis, il y a un gouvernement qui gouverne. Aujourd'hui, on a un président qui cumule tout ça. Et donc, à partir de là, on n'applique pas la Constitution. D'où la démangeaison d'un certain nombre de partis de changer de, mais vous savez, l'alternative, elle est simple. C'est ou la cinquième ou la quatrième. Il n'y en a pas d'autre.
Je pars un peu dans tous les sens dans mon interview parce qu'il y a beaucoup de choses que je veux vous demander. Donc, l'assassinat de l'amiral Darlan, ça c'est quand même une affaire où vous ne tranchez pas.
Non.
Mais on sait, est-ce que le général de Gaulle a eu à voir avec cet assassinat ou pas?
Il n'y a aucune preuve.
T'as déjà expliqué qui est l'amiral Darlan.
Alors l'amiral Darlan a été, d'abord c'était l'amiral de la flotte, c'est-à-dire il était à la tête de vraiment d'une marine ultra moderne qui aurait pu jouer un rôle dans la guerre. Elle l'a pas fait puisque d'une part il a cette marine est restée à quai et lui est entré en politique. Il est devenu progressivement, il a été ministre et puis il est devenu président du Conseil, c'est-à-dire premier ministre de Pétain. Et c'est un des hommes qui est allé le plus loin où on pouvait aller dans la collaboration. Il y a même des ports en Afrique du Nord qui ont été livrés aux nazis, etc. Donc il a été très loin dans la collaboration. Et puis en 42, il arrive à Alger, il quitte Vichy pour aller à Alger, il est en disgrâce, et il essaie de se refaire un destin, mais un destin compliqué à se refaire, parce que les Américains le traitaient de traître, de putois. Enfin, des choses, c'était terrible. Mais les Américains, en même temps, s'en servaient, comme ils se sont servis de tous ceux qui pouvaient faire barrage à De Gaulle. Et donc, il arrive à ce moment-là en 42, il est manipulé par les Américains, il est haï par les résistants et ô combien, et méprisé par De Gaulle, qui est à l'époque à Londres. Et il va être assassiné en décembre 42, dans des conditions qui sont restées assez mystérieuses. Alors, évidemment, la version la plus facile, c'est de dire que c'est De Gaulle qui l'a fait assassiner. Il n'y a aucune preuve de ça. Et il pouvait avoir intérêt à le faire, bien sûr. Mais ce qui est vrai, c'est que ça ne lui servira absolument pas. Là où la présence de Darlan lui servait d'épouvantail, c'était bien plus intéressant.
Ça l'arrangeait peut-être plus, oui.
Et à l'époque, à Alger, qui est une espèce de fourmilière, terrifiant, tout le monde se mélange, etc., il y a un homme qui joue un rôle quand même certain, c'est le général Giraud, qui est lui aussi manipulé par les Américains contre De Gaulle, et qui va tirer parti de l'assassinat de Darlan pendant plusieurs mois. Et je démontre, par des témoignages que j'ai retrouvés, que beaucoup de ses proches pouvaient être mêlés à l'assassinat de Darlan. Voilà, donc c'est simplement pour dire que l'affaire est un peu plus complexe qu'on l'imagine.
Ok. Votre dernier choix musical. Oh, merci beaucoup, Jean-Luc. C'est Errol Garner, Misty, qui est la musique du générique de cette émission. Mais pour une fois, on va l'entendre un peu plus longuement. Thank you. suis toujours avec Jean-Luc Barret, qui publie l'immense biographie du général de Gaulle chez Grasset, De Gaulle, une vie, l'homme de personne, et qui vient d'obtenir le prix Renaudot de l'essai. Félicitations.
Et puis merci au jury.
Oui, j'ai voté pour vous. Je vous le dis, j'ai voté pour vous. Hein, voilà, c'est clair. Aux gens qui disent encore une bio sur De Gaulle, je voudrais dire à nos auditeurs, à nos auditrices, on dit pas ça quand Spider-Man ressort. Il y a eu 4 films où on recommence à nous raconter l'histoire de Spider-Man, toujours la même histoire de Peter Parker. Hein, ça s'appelle des reboots. Eh bien, on connaît l'histoire du général De Gaulle, oui, mais on a toujours envie de l'entendre, encore et encore, parce que c'est la plus belle aventure de la France. C'est notre évangile, c'est grand. Cette histoire, elle est grande, elle est incroyable, et c'est pour ça que je voulais absolument vous recevoir, Jean-Luc Barret, et vous remercier pour votre travail immense, quoi, parce que c'est un livre vraiment monumental. Vraiment, merci beaucoup d'être venu passer l'heure en ma compagnie. Voter pour le général de Gaulle, bien sûr. Merci aussi à toute l'équipe, le producteur Philippe Gau, Mathieu Roque-Lago à la réalisation et Jérémy Bigori pour la programmation. Dans un instant sur Radio Classique, vous avez rendez-vous, et je sais que Jean-Luc Barret, vous l'aimez beaucoup, ce concert du samedi soir. Au programme, une soirée bel canto donnée par l'orchestre de Picardie en la cathédrale Saint-Louis des Invalides. Joyeux Noël à tous, vive la République, vive la France.
Joyeuses fêtes à l'écoute de Radio Classique.